Ouvrons la parole de Dieu. Nous allons faire plusieurs lectures que je vous demande de noter, si cela est possible, pour que vous puissiez, chez vous, les méditer. Car je pense que ce qui nous a souvent manqué, c'est de comprendre la profondeur ou le message que Dieu voulait nous adresser dans un texte biblique. Le premier, c'est dans les Actes. Dans le livre des Actes, vous avez peut-être observé quelque chose. C'est qu'un jour, l'apôtre Paul va se rendre au bord d'une rivière. Il y avait plein de femmes qui priaient. C'est bien ça. Actes chapitre 16, verset 13. Regardez ce qui s'est passé. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Je relis. Lydie, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison » et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 3, s'il vous plaît. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. Troisième lecture, une prophétie, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 23. Et je demande vraiment à ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion, ceux qui ne se sont pas convertis, repentis, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, quelle que soit votre religion ou pas, je vous demande de lire cette parole qui est une prophétie. Dans ma Bible, là, moi, il y a un enseignement donné sur le chemin de Jérusalem. Pour moi, ce n'est pas le titre qu'il faudrait donner. C'est une prophétie, vraiment, du Seigneur Jésus. Luc, chapitre 13, verset 23. Quelqu'un dit à Jésus: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis. » Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord, du Midi, je l'ajoute, tant pis, de Toulouse. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Ça fait peine de dire amen à ce texte presque, même si il est biblique. Mais ça fait peine de dire amen à quelque chose où les gens ne veulent pas la grâce de Dieu. Cette semaine, j'ai beaucoup prié pour nos enfants. Il y en a à côté dans la maison, dans le presbytère, qui sert pour l'école du dimanche. Il y a beaucoup de nos enfants qui ne sont pas encore convertis. Et je crois qu'il faut dire certaines choses avec sérieux et profondeur. Nous aimons nos enfants, oui ou non? Nous aimons nos enfants. Dieu nous les a donnés, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et Dieu ne nous les a pas donnés pour qu'ils se perdent. Je crois que Dieu nous les a donnés pour qu'ils soient sauvés. Vous avez vu Lydie, cette femme qui était à cette réunion de prière avec plein de femmes, il nous est quand même dit qu'il n'y a qu'à elle que Dieu a ouvert le cœur. Ça fait quand même réfléchir, ce qui veut dire que dans un lieu où des hommes et des femmes sont rassemblés pour prier, pour louer, pour partager le pain et le vin, pour écouter la parole, comme c'est le cas ce matin, Dieu sait très bien celui ou celle qui a soif vraiment. Cette femme qui avait sa profession, marchande de pourpre, cette femme qui aurait pu être peut-être même mise de côté par rapport à son travail, parce que le pourpre, ça servait au maquillage, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Cette femme, elle craignait Dieu. Et Dieu lui a ouvert le cœur. Et je me pose la question ce matin. Si ça s'est passé de cette manière, c'est qu'il n'y avait qu'elle qui vraiment avait envie d'entendre Dieu lui parler. Et je nous pose à nous la question. Dans le groupe que nous sommes ce matin, qui va avoir la grâce de ce que Dieu bénisse votre cœur? Qui? Vous croyez que Dieu aurait pu bénir toutes ces femmes? Est-ce que Dieu aurait pu bénir toutes ces femmes? Bien sûr. Mais le Seigneur n'a ouvert le cœur que de Lydie, parce que cette femme, elle n'était pas à la réunion de prière pour la réunion de prière, comme souvent c'est développé dans les évangiles, où on voit Jésus qui dit « Mais ne priez pas comme les pharisiens, ne priez pas comme les hypocrites, ils s'imaginent qu'à force de réciter des prières, ils seront exaucés. » Ces gens-là étaient dans le temple et Jésus leur dit « Mais ça ne sert à rien, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Vous comprenez bien que Dieu ne va pas nous forcer. D'ailleurs, vous remarquerez que cette prophétie commence par une invitation. Vous avez toujours votre Bible ouverte? Ça commence par une invitation. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La prophétie est tellement grave que l'on aurait pu accepter que Jésus nous force. Ce qui se passe dans des églises, dans des sectes, c'est à cela d'ailleurs qu'on reconnaît le secte, où on vous oblige à faire les choses, on vous force à faire les choses. Je vous referai remarquer que là, dans cette prophétie terrible, le Seigneur ne force personne. Il dit, efforcez-vous. C'est à nous de faire les efforts. Nous, on peut vous supplier, parce que c'est écrit, soyez réconciliés avec Dieu. Nous, on peut se mettre à genoux, on peut pleurer, on peut tout faire. Mais personne ne peut vous forcer à vous repentir. Personne ne peut vous forcer à devenir chrétien. Si vous êtes un jour chrétien, c'est vous qui vous forcerez à le devenir. C'est vous qui direz, oui, je veux être un fils du Dieu très haut, je veux être une vraie chrétienne, je veux appartenir au royaume de Dieu. Le Seigneur ne vous forcera pas. Et je le répète, c'est à ça qu'on reconnaît une véritable église. C'est qu'on ne cherche pas à manipuler les gens, on leur prêche la vérité et Dieu bénit sa parole. Dieu a conduit l'apôtre Paul à Philippe, à cette rivière, parce qu'il y avait une femme qui avait besoin d'être touchée par Dieu. Et Dieu sait comment conduire quelqu'un dans une église ou comment conduire un chrétien chez quelqu'un pour que cette personne puisse être touchée par la grâce de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Vous avez remarqué qu'il y a une invitation? Et en même temps, il y a une parole d'une sévérité pas possible. Moi, c'est une parole qui m'a peut-être fait le plus peur lorsque j'ai lu la Bible pour la première fois. C'est une expression que l'on ne retrouve que dans la bouche du Seigneur Jésus, qui revient 7 fois dans les évangiles, donc 6 fois dans l'évangile de Matthieu. C'est l'expression du verset 28, qui est une expression qui fait peur. Je pense que c'est fait exprès pour que nous soyons sérieux. Trop de gens qui sont légers avec la parole de Dieu. Vous avez eu cette expression, je répète que c'est le Seigneur, plein d'amour et de miséricorde, qui a lui seul cité cette parole d'une sévérité totale. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez de ce verset?
Vous qui venez peut-être pour la première fois, vous dites, mais c'est pas possible, Jésus ne peut pas avoir prononcé des paroles pareilles. Moi, on m'a dit que Jésus, c'était l'apôtre de l'amour, etc. Oui, c'est l'apôtre de l'amour. Mais c'est aussi, l'amour, ça va toujours avec la justice. L'amour, ça va toujours avec la vérité. L'amour qui est tout seul, ça nous fait faire n'importe quoi. Et le Seigneur Jésus, donnant cette prophétie d'une sévérité totale, puisqu'il dit bien qu'un jour, le maître de la maison, c'est Dieu, qui se lèvera et qui fermera la porte. D'ailleurs, la prophétie, si vous avez bien écouté le second don spirituel, rappelez que c'est encore possible, que la porte est encore ouverte, et que nous ne devons pas nous amuser avec cette affaire. Parce qu'un jour, la porte de la grâce sera fermée. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Un jour, la porte sera fermée. Les ados, c'est très sérieux. Vous qui venez et qui découvrez l'évangile, ne venez pas pour découvrir une nouvelle dénomination. Ça ne sert à rien. Venez pour découvrir la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas une dénomination qui va vous sauver et pas la nôtre. Et aucune dénomination ne peut sauver une âme. C'est le Seigneur qui sauve les âmes. Et cette prophétie nous ramène à tous ces textes où Jésus, justement, parle à des chrétiens. Tenez-vous bien, c'est à des chrétiens. Ce texte, vous pouvez le calculer comme vous voulez. C'est à des chrétiens que Dieu parle. Des gens qui s'imaginaient que tout allait bien, qu'ils étaient prêts, etc. Et quand la porte sera fermée, ils vont se retrouver dehors. Et certains vont dire, mais Seigneur, on était avec toi, on a mangé avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a mangé avec toi, tu as enseigné dans nos rues. C'est des chrétiens, des gens qui ont vraiment vécu là tout proche du Seigneur, à côté de lui. Vous vous rendez compte? Tu as mangé avec nous, devant toi. Quelle proximité, quelle communion. Mais il n'y avait pas de profondeur. Et ce que je voudrais que nous comprenions bien, c'est qu'un jour la porte sera fermée. C'est comme pendant les 100 ans ou 120 ans qu'a duré la construction de l'arche, et on se moquait de Noé. Lisez comment ça se passait. On se moquait de Noé, qui lui, comme un imbécile, construisait cette arche. On se moquait de lui, je ne vous dis pas tous les mots qu'il a dû entendre. Construire une arche à cet endroit-là. Mais la Bible dit que parce qu'il construisait, il était un prédicateur de la justice. Et on s'est moqué de lui, et la Bible dit qu'un jour, Dieu, c'est pas Noé, Dieu lui-même a fermé la porte. Ils ont dû encore plus se moquer, parce que si je ne me trompe pas, pendant 7 jours, après que la porte a été encore fermée, il n'a pas plu. Alors je ne vous dis pas comment ils ont dû se taper sur le ventre. Mais mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, ça s'accomplira. Nous, nous sommes habitués à entendre à tous les niveaux, que ce soit en politique, on est habitué à entendre que des gens qui nous mentent. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est habitué, même, hélas, dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui mentent. Alors on est habitué à vivre, le monde est dirigé par le mensonge, le monde ne veut pas des choses de Dieu, ça fait qu'on est habitué, et on s'imagine peut-être que ce que Jésus a dit était peut-être un peu exagéré, c'était peut-être, oui d'accord, c'est ce qu'il a voulu dire, mais enfin bon, peut-être c'est pour nous mettre un peu la pression. Non, il n'a pas mis la pression. Il est la vérité, et il dit la vérité. La porte de la grâce va se fermer un jour. Et quand je pense à nos enfants, à nos ados, je supplie Dieu, je prie pour vous, hein. Vous entendez les ados? Et dites merci. Je prie pour vous, là, je blague. Mais est-ce que vous comprenez? Moi, je ne voudrais pas que nos ados restent ici-bas lorsque Jésus va revenir nous chercher. Et ces choses-là doivent être dites. Et ces choses-là doivent être dites d'abord à nous les chrétiens, pour que ce que nous avons chanté ce matin, à savoir « Je suis rafraîchi quand ton onction m'envahit », ne nous imaginons pas que l'onction va descendre sur une église si nous ne vivons pas dans la sainteté. Alors on pourrait prendre quelques exemples, à savoir de ces textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Textes d'ailleurs que je vous encourage à méditer avec vos enfants. Parce que des fois, je ne sais pas quoi faire comme culte avec mes enfants. Eh bien, on va en lire un. Alors, le premier texte, si je ne me trompe, C'est dans Matthieu. Matthieu au chapitre 10. 10 7, attendez, je me trompe. Pardon, c'est Matthieu chapitre 8. Un homme, un militaire de l'armée romaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jérusalem était occupée par les Italiens, par les Romains, et voilà qu'un centenier qui ne devait pas toujours être apprécié, croyez-moi, dans les rues de Jérusalem, cet homme-là a vraiment la foi en Jésus-Christ. Et il va vers lui. Il va faire une expérience extraordinaire. Et nous allons voir ce que Jésus rajoute. Au verset 10, Matthieu 8, verset 10, regardez bien. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, je vous l'avais compris, ce sont des chrétiens. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et puis, bon, il s'adresse au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Le contexte, c'est facile à comprendre, le contexte, c'est la foi. Les sept textes, je vais vous les laisser, je pense, les sept textes où Jésus parle des grincements de dents, sont tous dans une signification différente. Là, c'est la foi. Et c'est pour ça que la question que nous devons nous poser ce matin est celle-ci. Est-ce que je marche et je vis par la foi? Bien sûr que cette prédication, elle est surtout adressée à tous nos enfants, à tous les nouveaux, à tous ceux qui viennent depuis des mois ou des années, qui n'ont pas encore pris la décision, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nous qu'on va vous forcer. Il y a une dame qui vient de temps en temps ici, et on me dit, « Monsieur Gau, vous devriez aller la voir, vous devriez lui dire qu'elle se convertisse. Si elle ne veut pas se convertir, elle ne se convertira pas. Nous, elle vient, c'est un lieu public, je veux dire, une église, on ne va pas forcer les gens à prendre le baptême, ça tient vraiment de l'incrédulité totale. » Le contexte, le premier contexte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, c'est un contexte où Jésus dit, mais voilà, tu vois ce militaire-là, ce païen. Eh bien, il était dans une démarche de vérité, alors que les religieux, eux, étaient dans une démarche de mensonge, parce qu'ils ont dit, il mérite que tu lui accordes ceci, comme quoi la religion, ça ne nous amène pas forcément à la vérité. Enfin, je fais une digression. Mais mes frères et sœurs, le contexte, c'est la vraie foi. Dans le royaume des cieux, se retrouveront ceux qui seront vécus par la foi. Ils ne se retrouveront pas des évangéliques ou des protestants ou des catholiques. Ils se retrouveront parmi tous ces gens, des gens qui auront eu une véritable obéissance à la parole de Dieu. Les pleurs et les grincements de dents, c'est une expression que Jésus a prise à bon escient pour que l'on se dise, mais au fait, est-ce que j'ai une véritable foi? Est-ce que j'ai une véritable foi? Est-ce que vraiment j'obéis à Dieu? Nous avons partagé mardi de ce qu'était un disciple. Et j'ai vu que plusieurs étaient mal à l'aise, des nouveaux bien sûr, mais même pas. Quelques personnes étaient mal à l'aise quand j'ai cité ces textes où il est parlé de ceux qui vivent, des chrétiens qui vivent dans l'iniquité, qui pratiquent et qui aiment le mensonge. La Bible dit que leur part sera dans les temps ardents et de feu. C'est écrit ou c'est pas écrit? On va le relire, parce que j'ai l'habitude. Et je vois quelques regards qui disent, Monsieur Gau, il répète que la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, il est parlé des menteurs. Il parle des menteurs, plusieurs fois. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 22, verset dehors. Verset 15, parce qu'il est dit dehors. Oui, mais venez à ma place. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Verset 27, il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Chapitre 22, verset verset 15, c'est les dernières paroles de Dieu dans la Bible. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quelqu'un qui pratique le mensonge, bien sûr que le diable il vous fera croire que c'est pas grave, la grâce de Dieu, ça couvre tout, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. On n'entend que ça aujourd'hui. Vous pouvez tout faire, la grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Dans les beaucoup dont Jésus parle dans cette prophétie, beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup. C'est un très grand nombre. Regardez dans un dictionnaire, beaucoup, c'est un très grand nombre. Ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de chrétiens qui n'auront pas pris au sérieux ce qu'était vraiment la grâce. C'est pour ça que dans l'église de la fin des temps, on accepte l'iniquité. Vous avez vu dans l'église primitive, dès qu'Ananias et Saphira ont menti, ça a été réglé. Et les gens, ils s'imaginent que parce que Ananias et Saphira, c'est clair qu'ils ont menti, ça a été rapide comme truc. Ils sont morts de suite. Mais moi, je mens. Mais je n'ai pas de jugement. Dieu est bon. Alors écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que le jugement n'est pas venu qu'il ne viendra pas. Demandez au fils d'Élie et vous verrez que quand il n'y a pas la gloire de Dieu, Dieu diffère le jugement. C'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais c'est pour vous dire que lorsque l'on vit dans le péché, on est perdu. Et que Jésus dit, mais voilà, les fils du royaume, combien de chrétiens s'autorisent parce que Dieu est bon. Alors on s'imagine que parce que Dieu est bon, la grâce, ça couvre tout. La grâce, ça ne nous permet pas de vivre dans le péché. La grâce, ça nous délivre du péché. La grâce, ça nous permet de vivre dans la piété. La grâce, ça nous permet de vivre dans la justice. La grâce, ce n'est pas qu'une couverture qui nous couvre. La grâce, elle nous permet d'avoir une véritable foi. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, si vous vivez dans le péché, si vous vivez dans le mensonge, ne vous imaginez pas, parce que Dieu n'a pas encore jugé, que Dieu est d'accord avec votre mensonge. Ne vous imaginez pas, parce que vous seriez méchant, que Dieu dit rien. Je suis méchant avec ma femme, mais apparemment, le Seigneur il me bénit, j'ai toujours mon boulot, j'ai même été augmenté. Mais Dieu ne doit pas être contre, c'est peut-être ma femme qui a besoin que je sois un peu raide avec elle. Ne riez pas, parce que ça je l'entends. Mes frères et sœurs, quand on est méchant, on a perdu la foi. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Si vous êtes méchant, c'est que vous avez perdu la foi. Si vous vivez dans le mensonge, c'est que vous n'avez rien compris à ce qu'était la grâce de Dieu. On peut le lire, hein? On peut le lire, vous savez. Dans Tite, bien sûr, ce n'est pas les versets que certains pasteurs vont utiliser. Tite, c'est avant Philémon. C'est après Timothée. Regardez ce qui nous est dit sur la piété. Sur la grâce. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, beaucoup de gens se retrouveront dehors. Ça fait mal au cœur quand même, non? Beaucoup chercheront à entrer. Alors, on est dans un monde de fous. La porte est ouverte, les gens ne veulent pas rentrer. Et quand la porte sera fermée, les gens voudront rentrer. Ah mais je vous dis qu'on est compliqué. Mais en fait, il vaut mieux pas jouer à ce jeu et comprendre que dans l'église des derniers jours, à cause du fait que la gloire de Dieu sera sortie de l'église, on pourra vivre dans l'église, dans le péché. Normalement, si une église se sanctifie, se consacre, le pécheur ne résiste pas dans la maison de Dieu. Parce qu'il est repris et il dit, bon, je vis dans le péché, il ne peut pas rester. Ou alors il se repent. Mais dans l'église de la fin des temps, c'est écrit, vous me faites confiance, dans l'église de la fin des temps, on pourra louer, prier, adorer et en même temps vivre dans l'iniquité. On va le lire dans un deuxième texte. Regardez ce que Paul dit à ce jeune pasteur, verset 11 du chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors qu'est-ce qu'elle fait la grâce de Dieu? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, donc aujourd'hui, selon la sagesse, la justice et la piété. Un chrétien qui connaît la grâce de Dieu, il vit dans la piété, il vit dans la justice, il vit dans l'obéissance. Le deuxième texte, on peut y aller, dans Matthieu, où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. On a vu que le premier contexte, c'était la foi. Le troisième texte, on va passer au troisième, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Matthieu chapitre 13, c'est dans la fameuse parabole de l'ivraie des champs. Il parle justement du jugement. Matthieu chapitre 13, verset 40. Non, on va lire l'explication. Verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc, à la fin, dans le royaume de Dieu, il y aura le péché mélangé avec la sainteté. » Écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Et pourquoi ? Parce que la présence de Dieu, je le répète, n'est pas assez puissante. Au fur et à mesure que la gloire de Dieu revient, c'est pour ça que si nous les chrétiens, nous nous appliquions à faire en sorte que le nom de Jésus soit sanctifié, les pécheurs, où ils se repentiraient, de suite, vous avez compris, où ils se retireraient. Mais vous avez ce texte qui nous montre que Dieu séparera ceux qui, dans le royaume, commettent des scandales et des iniquités. Et je crois qu'un chrétien, il devrait s'appliquer à avoir un bon témoignage. Oui ou non ? Il y aurait tant de choses à dire. Mais c'est ce qui va arriver. Là, le contexte, c'est les iniquités. Ceux qui vivent dans l'iniquité, il y a des chrétiens qui ils s'imaginent que parce que la grâce est là, ils peuvent vivre dans le péché. Et ça, ils seront dans les beaucoup qui frapperont, mais qui n'auront pas compris. Alors, franchement, je vous le dis en toute honnêteté, je pense qu'à cause de ce qu'il y a enseigné dans les églises, à cause du fait que les pasteurs veulent faire plaisir à tout le monde, voilà, on veut minimiser, voilà, les ados, vous aimez le Seigneur, tu aimes le Seigneur, Clément, tu aimes le Seigneur, ouais. Voilà, tu aimes le Seigneur, ouais, tu devrais te faire baptiser, Clément, tu aimes le Seigneur, c'est Clément ou Benjamin, non, mais, ce que je vous dis, c'est comme ça que ça se passe, Benjamin, tu aimes le Seigneur. Bon, allez, faites-vous baptiser, les jeunes. Faites-vous baptiser. Vous avez donné votre cœur au Seigneur ? Ben oui, allez-y. Et on baptise des gens à qui on n'a pas dit qu'il fallait vraiment se repentir et naître de nouveau. Et le problème, ce n'est pas souvent les chrétiens, parce que quand vous lisez, moi hier encore je lisais les textes, dans les textes qui parlent au pasteur, parce que j'en ai besoin, ça fait peur de voir comment Dieu parlent sévèrement aux pasteurs parce qu'ils n'ont pas fait connaître la vérité, parce que les pasteurs, ils ont peur que les gens partent. S'ils partent, ils ne vont pas donner leur dîme. Qu'est-ce qu'on va faire ? S'ils savaient, les pauvres, que quand Dieu bénit, je crois que Dieu bénit vraiment. Mes frères et sœurs, ces paroles qui sortent que de la bouche du Seigneur Jésus, ces paroles, Dieu l'a voulu, parce que l'apôtre Paul aurait pu reprendre cette expression, c'était de son acabit. L'apôtre Pierre aurait pu reprendre cette expression, ça tenait debout. Mais mes frères et sœurs, on ne la retrouve que dans la bouche du maître, du divin maître. Elle peut qu'être prise au sérieux. Elle revient cette fois, elle aurait pu être dite plusieurs fois. C'est l'image de quelque chose de parfait. La justice de Dieu, elle est parfaite. Mais ceux qui vivent dans l'iniquité se retrouveront dehors. Et moi, mes frères et sœurs, je ne veux pas que, comme je l'ai dit dimanche dernier, qu'un jour vous disiez, mais pourquoi il ne nous l'a pas dit ? Pourquoi il ne nous l'a pas dit ? Qui veut se retrouver dehors lorsque l'Église va être enlevée ? Qui a lu l'Apocalypse ? Qui a lu ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église ? Mais personne ne s'imagine la galère que ça va être une fois que l'Église sera enlevée. Et les gens sont là. Moi, je suis persuadé, mais j'en ai honte, je l'ai déjà dit, je suis persuadé que si tous les pasteurs, nous faisions notre travail et que nous disions vraiment la vérité, je crois que Dieu manifesterait sa grâce. Mais il vous faut, mes frères et sœurs, les jeunes, les ados, nos enfants, il y a ma fille là, je veux dire, on les veut tous au Seigneur. Vous ne voulez pas qu'ils soient tous là ? Moi, je prie, je dis, Seigneur, pour l'enlèvement, fais que mes enfants soient tous à côté de moi, qu'on parte tous ensemble. Est-ce que c'est bien ?
Ouais. Moi, j'aimerais qu'on soit tous ensemble. Est-ce que Dieu peut le faire?
Ben oui.
Bon, mais moi, je veux qu'ils soient tous sauvés. Là, j'ai ma petite Maëva. Moi, je veux qu'on soit tous au ciel. Tous qu'on aille au ciel. J'ai pas envie que Dieu me dise, ben voilà, tu sais, dans ton église, tu vois, dans ton église, c'est exactement comme dans la parabole des vierges folles. Il y en a la moitié qui sont restées. Pour moi, ça serait, bon, je sais pas si c'est bien ce que je dis, mais ça serait une forme d'échec. Après tout, le salut, c'est quelque chose de personnel. C'est chacun qui choisit. Je pense qu'un pasteur peut bien prêcher et il n'y a que 10% qui peut être sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Et un pasteur peut-être mal dire les choses et toute l'église a soif de Dieu et les gens... Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'une façon générale, Dieu bénit la parole de Dieu. Et ces textes, où encore une fois le Seigneur dit, mais les fils du royaume ils seront jetés dans les ténèbres parce que les gens, ils cautionnent le péché. Moi, je vous assure, jamais comme aujourd'hui, j'ai vu autant de chrétiens qui acceptent le péché. Qui acceptent le péché. Ils aiment Dieu, c'est clair, mais ils acceptent le péché. En plus, après, ils se retrouvent dans des situations pas possibles. Et cette nuit, je priais. Je priais parce que je pense à ce que je dois apporter, vous le comprenez. Je priais et je pensais à l'adversité que l'on rencontre, parce qu'on a tous de l'adversité. On a de l'adversité quand on obéit. Est-ce qu'on peut avoir de l'adversité quand on obéit? Oui. Et on peut avoir de l'adversité quand on n'obéit pas. C'est pas pareil. On devrait un peu avoir du discernement. Normalement, on le sait. Et ça fait plusieurs jours. J'étais en train de prier, et ce matin encore, et hier soir, et je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ce que je vais dire. Je priais, et il m'est revenu un texte, alors je vais vous le citer. Je ne l'ai pas marqué, c'est dans les rois, je sais. C'est un texte où on voit la probation de Dieu sur la vie de Salomon, d'une façon extraordinaire, à tel point qu'il tenait toutes les armées du monde à distance que par sa réputation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La probation divine sur Salomon par réputation. Il faisait peur à tout le monde. Et puis, il a commencé à se détourner, à se tourner vers les femmes. Et il en a épousé plein. C'était déjà pas bien, puisque quand on voit... Pourtant, c'était un homme qui avait été rempli de sagesse. Et il nous est dit qu'il a commencé, lui qui avait construit le temple, qu'il a construit des temples aux idoles. On se demande. Dieu suscita un ennemi à Salomon. Quelques versets plus loin, l'Éternel suscita un autre ennemi à Salomon. Quelques versets plus loin, le comble, son serviteur se retourna contre lui. Lui qui tenait les armées à distance par sa réputation, même dans sa maison, je crois que c'est Jéroboam, va se retourner contre lui. Moi, je vous assure, ce texte, il est là dans mon cœur. Je pense que c'est pour quelqu'un. Peut-être un pasteur qui va écouter cette prédication. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je sais qu'il me faut le dire. Ce sont des choses sérieuses. On peut avoir l'approbation de Dieu. Je pense qu'on veut l'approbation de Dieu. On veut avoir de l'assurance. Je discutais l'autre jour avec un monsieur qui vient de temps en temps, qui ne se convertit pas. Je dis, mais pourquoi vous venez? Alors j'ai essayé d'avoir une discussion sérieuse. Vous n'aimeriez pas avoir l'assurance du salut? Il me dit, mais parce que vous pensez que vous, comme chrétien, peut avoir l'assurance du salut? Alors je dis, écoutez. J'ai dit, en toute humilité, je sais que je suis sauvé. Je le sais, je veux dire, on ne va pas cracher dans la soupe, on ne va pas faire les faux humbles. Mais quand vous marchez avec Dieu, vous savez que vous êtes sauvé. Quand vous obéissez à Dieu, quand vous lisez la parole et que vous obéissez, vous avez la foi que Dieu veut que vous ayez. Quand vous savez certaines choses. On parlait mardi justement des tatouages. Des tatouages, c'est en train de rentrer dans les églises. Les chrétiens acceptent de se faire tatouer. Écoutez bien les jeunes, parce que les jeunes aussi ont besoin d'entendre ces choses. Moi j'ai vu une jeune fille ici qui avait accepté de se faire tatouer. Elle me dit, oh mais monsieur Gau, c'est pas grave, c'est rien. Mais mes frères et sœurs, la désobéissance, ça vient avec des petits trucs comme ça. La Bible nous demande, dans Lévitique 19, 28, si je me trompe, de ne pas se faire de tatouage. Mais aujourd'hui, vous dites ça à des jeunes, ils vous disent « Oh, mais c'est pas grave, c'est joli, là, c'est joli. » Et même dans les églises, il y a des chrétiens qui partent, qui arrivent en débardeur. Vous rendez compte, si j'arrivais, moi, en maillot Marcel, là, vous savez, avec le tatouage, là, et que je vous disais, eh ben ouais, c'était, je me suis fait tatouer avant ma conversion, là. Moi, je pense que si on s'est fait tatouer avant sa conversion, je pense qu'on doit avoir la décence de ne pas être une pierre d'achoppement. Oui ou non? Parce que ceux qui commettent des scandales, en fin de compte, ils s'en fichent de ce que les autres pensent. Le témoignage, on s'en fiche, pour ne pas dire on s'en fout. Parce qu'on entend ça aujourd'hui dans le... Mes frères et sœurs, je suis désolé. Le troisième point où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, il parle de ceux qui scandalisent les autres. Et si vous regardez dans un dictionnaire ce que signifie le mot scandale, c'est un comportement qui éloigne les gens de Dieu. C'est pour ça que les gens ils rentrent dans les églises et ils ressortent en disant c'est des hypocrites. Et ils ont raison. N'ajoutons pas au comble. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que nous nous devons d'avoir un bon témoignage. Quand vous entendez un gosse qui vous dit, un enfant, un ado, qui vous dit, mais moi, quand je vois le témoignage de mon père, eh bien, je peux vous dire que ça ne me donne pas envie d'aller à l'église. Bien sûr qu'il a tort. Mais on l'a scandalisé, on l'a éloigné de Dieu. C'est sûr que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est sûr que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que chacun se décide. Mais quand même, si Jésus parle des scandales, ça veut quand même tout simplement dire qu'on peut éloigner les gens de Dieu. Vous entendez, mes frères et sœurs? Et je crois qu'il ne faut pas dire, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai entendu des témoignages d'enfants de pasteurs. Mais moi, ça m'a brisé le cœur. Mais vous savez, mon père, à l'église, voit Alléluia. Et à la maison, si vous saviez comment il parle à ma femme. Il y avait un pasteur qui avait raconté à sa femme. Il y avait un pasteur qui avait raconté une histoire, ça nous avait fait rire. Mais moi, après du recul, c'était à une convention. C'est une convention. Je vous le dis pour vous montrer qu'il y a des femmes qui ont du culot, croyez-moi. Un jour, il y a un pasteur, il était en train de prêcher. C'était à l'île Maurice. Il était en train de prêcher. Prêcher sérieusement. Puis tout d'un coup, il y a sa femme qui monte sur l'estrade. Elle amène une table. Le pasteur, elle revient, elle amène des casseroles. Et son mari, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? « Oh, écoute, t'es tellement gentil quand t'es à l'église que moi j'ai décidé de rester avec toi à l'église. » Il fallait le faire. Isabelle, ne le fais pas, s'il te plaît. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si elle a bien fait. Je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Mais enfin, ça a été vécu. Mais ça nous montre, mes frères et sœurs, quand même, que quand Jésus dit « Beaucoup se retrouveront dehors », c'est, je ne sais pas comment le Seigneur Jésus a l'intonation de voix que Jésus a utilisée, il parle à l'Église, c'est à l'Église que Dieu parle. C'est une prophétie, ça va arriver, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de ceci, de cela, c'est comme ça que ça va arriver. Et moi je crois que Jésus va bientôt revenir. Et je nous le demande pour le salut de nos ados, pour le salut de nos enfants, pour le salut des jeunes, des personnes nouvelles, qu'on ne peut pas être un objet de scandale. On doit dire, Seigneur, mais éclaire-moi. Et hier encore, je relis en ce moment le Deutéronome. Et je voudrais que vous voyiez avec moi un texte. Dans le Deutéronome, chapitre 29, il y a un texte qui m'a énormément parlé hier, mais vraiment, vraiment parlé. Ils ont vu des choses merveilleuses. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. C'est une grâce. Ça devait être quelque chose, non? Hein? Ça devait être quelque chose. Regardez avec moi. Deutéronome, chapitre 29, verset 2. Je voudrais que nous comprenions que c'est ce qui est en train d'arriver. Vous savez, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Qu'on peut voir la paille dans l'œil d'un frère et qu'on ne voit pas la poutre dans son propre œil, c'est pour vous dire à quel point ça va mal. On peut voir un peu d'orgueil dans le cœur de quelqu'un et ne pas se rendre compte combien, à quel point nous sommes même lamentablement orgueilleux. Deutéronome chapitre 29, verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves, regardez bien, que tes yeux ont vu ces miracles et ces grands prodiges. » Bon, ils ont vu et vu des choses merveilleuses. Mais regardez le verset 4. « Mais jusqu'à ce jour,
L'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Regardez la suite. Des yeux pour voir. Des oreilles pour entendre. Alors, si quelqu'un, vous voyez, on pourrait dire, mais ça ne tient pas debout ce qui est dit. Les yeux ont vu les miracles. Et là, il dit, mais vos yeux n'entendent, ne voient pas, vos oreilles n'entendent pas. C'est ce qui s'est passé avec Lydie. Elles étaient toutes à la réunion de prière. Elles devaient toutes prier Dieu. Mais il n'y en a qu'une qui a vu la grâce de Dieu. Ce matin, je vous prêche, je le fais vraiment avec cœur. Et je voudrais que tous, vous puissiez dire, c'est quelque chose de sérieux. Mais est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez que la fin de la grâce est en train d'arriver? Que la porte va bientôt se fermer? Est-ce que vous faites partie, les ados, les jeunes, est-ce que vous faites partie de cette catégorie de beaucoup, dans le beaucoup, qui disent, oh, mais moi je me convertirai plus tard. Moi je me convertirai quand je serai vieux. Je me convertirai quand je serai marié. Est-ce que ça s'entend, ça, des fois? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune qui vous dit, voilà, ben moi j'attends d'avoir 30 ans pour me convertir, j'attends d'être à la retraite? C'est un raisonnement comme un autre. Mais ça ne tient pas compte d'une immense vérité. C'est que chaque fois qu'on écoute un appel, comme ce matin, et qu'on refuse, notre cœur s'endurcit. Vous pouvez le tordre comme vous voulez pour dire, non, non, je ne m'endurcis pas. C'est un principe biblique. C'est valable pour les inconvertis, c'est valable pour les chrétiens. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut simplement dire que chaque fois que l'évangile est prêché et que je fais fi de cette prédication en disant, bon, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est bien, mais c'est pour les autres, mon cœur s'endurcit. Et quand viendra la fin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'aurai été tellement endurci que je ne croirai plus au pardon, que je ne croirai plus dans la grâce. Il y a des gens, ils sont vieux, c'est pas péjoratif, ils ne croient plus dans la grâce de Dieu parce que tout simplement, leur cœur c'est endurci, parce que la vie, elle est faite d'épreuves et de bagarres et de combats, et notre cœur, s'il n'est pas attendri par la grâce, eh bien, il s'endurcit. C'est pour ça que ce raisonnement, il ne vaut rien du tout, parce que les gens s'endurcissent. Et les ados, moi, je vous le dis, parce que Dieu peut me reprendre, ou on peut partir, mais chaque fois que vous entendez un appel, estimez-le. Dites, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je ne suis pas dans le péché? Est-ce que je ne suis pas dans l'iniquité? Est-ce que j'ai compris les choses divines? Et je voudrais terminer avec cette affaire d'un autre texte sur les pleurs et les grincements de dents. C'est dans la parabole du festin des noces. Vous languissez le festin des noces? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui languit les noces de l'agneau? Enfin, moi, je vous dis que je languis d'y être. Les noces de l'agneau, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous y pensez des fois? Ah, moi, je m'y vois. Moi, je me fais de ces films. Ah, mais moi, j'y suis des fois. Tellement je sais que ce sera un moment merveilleux. Vous croyez que c'est vrai les noces de l'agneau? Bon, il y a une parabole sur le festin des noces. Dans Matthieu 22, il y a une parabole, on l'applique souvent en évangélisation pour amener les gens à la croix, et c'est une parabole qui nous indique que Dieu invite tout le monde. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Une chose est sûre, c'est que les gens se prédestinent. Alors, les calvinistes ont utilisé ce verset où on est prédestiné pour dire que les uns sont prédestinés au ciel, les autres sont prédestinés à l'enfer. Ce n'est pas vrai. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et c'est nous qui choisissons si nous voulons aller au ciel ou si nous voulons aller à l'enfer. Il n'y a pas de prédestination. C'est nous qui nous pré-prédestinons. Est-ce que c'est clair? Bon, ça va. Dans la parabole du festin des noces, Matthieu 22, Dieu invite tout le monde, méchants, les bons, Dieu nous aime à tous comme on est. Alors, verset 11, on va lire la partie qui intéresse l'Église. La première partie, c'est pour les païens, les pécheurs. La deuxième partie, c'est pour les chrétiens. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors c'est une parabole, ne vous imaginez pas qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver au ciel alors qu'il ne mérite pas d'y être. Vous comprenez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une parabole où le Seigneur Jésus utilise cette expression, je l'ai dit, qui est utilisée sept fois, les pleurs et les grincements de dents. Cet homme-là, il a accepté l'invitation. La première partie fait part de ceux qui n'ont pas accepté, de ceux qui ont accepté. Mais là, on est dans l'invitation.
C'est quelqu'un qui a accepté. Donc c'est un chrétien qui a accepté de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est rentré dans le royaume de Dieu, mais voilà. Il n'a pas accepté la condition. À moi, l'habit de noces, bien sûr, ça représente de revêtir Christ. Ça nous parle de sainteté. Vous savez qu'il est dit à plusieurs reprises, revêtez Christ. Revêtez-vous du Christ. Ça veut dire qu'on doit marcher dans la sainteté. Ce texte est catégorique. Le chrétien qui, lui, n'accepte pas la sainteté, il n'a pas besoin, lui, de revêtir Christ. Moi, j'ai ma religion. Voilà, ça, c'est un autre vêtement. Moi, j'ai la religion, je suis pentecôtiste. Moi, j'ai une bonne religion. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église de Pentecôte que vous êtes sauvé. Ce n'est pas la religion pentecôtiste qui va vous amener au ciel. Mais je dois nous poser la question, et les ados, les jeunes, vous qui venez, qui découvrez, est-ce que vous avez accepté la sainteté? Ou est-ce que vous dites, c'est pas grave, c'est pas méchant, Dieu pardonne tout, le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Vous lirez le contexte et vous verrez que c'est pas tout à fait ça. C'est vrai pour ceux qui marchent dans la communion avec Dieu. Bien sûr que lorsqu'on marche dans la communion avec Dieu, quand on commet un péché involontaire, eh bien Dieu nous pardonne. C'est évident, vous le comprenez. Un chrétien qui obéit à Dieu, qui marche avec Dieu, qui a une foi vivante, qui ne vit pas dans l'iniquité, lorsqu'il commet un péché, ben c'est involontaire, le sang de Jésus le purifie. C'est évident. Mais laissez-moi vous dire que cette parabole, on l'utilise toujours pour les inconvertis, toujours pour les païens, mais je peux vous dire qu'elle parle des chrétiens qui sont rentrés dans le royaume, ils ont pris le baptême, ils ont accepté, mais ils n'ont pas voulu revêtir la sainteté de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Jésus dit, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Mais vous imaginez un instant si Jésus revenait là dans le culte, pendant le culte. Imaginez. Est-ce que vous savez, déjà, je pense que la réaction sera proportionnelle à ce que vous savez de l'Apocalypse. Si vous avez lu l'Apocalypse, je pense que la réaction va être totalement différente chez les uns et les autres. Mais mes frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le prend ce pain et le vin? Est-ce que ce sang, est-ce que ce petit verre de vin vous parle? Est-ce que ça vous parle ce vin? Est-ce que vous rendez compte le prix que Jésus a payé? Souvent, je pense à Jésus qui a tout créé. C'est écrit que tout a été créé par lui. Bon, tout a été créé par lui et pour lui. Il a tout créé. Il a créé les hommes, il a créé Adam. Vous avez vu quand même, c'est compliqué un être humain. Vous avez vu, il y a des trucs sous la peau. Il y a des choses. Je ne sais pas comment Dieu l'a créé. Mais bon, comme il est puissant, il l'a fait. Moi, souvent, quand je pense à nos corps, écoutez bien. Parce que pour créer l'homme, je pense que ça n'a pas dû être très difficile pour Dieu, malgré la complexité du corps humain. Mais pour que l'homme puisse naître de nouveau, être recréé, ça lui a coûté le calvaire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour que l'homme soit créé et avec lui, Jésus a vraiment souffert. Pour que vous soyez là ce matin, il a souffert. Est-ce que vous le savez? Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Jésus a versé son sang. On n'est pas là parce qu'on est meilleur. Lydie, elle n'était pas, elle n'a pas eu le privilège d'accueillir Paul parce que c'était la meilleure. Lydie, elle avait soif de Dieu. Elle craignait Dieu. Quand elle priait à la rivière, elle ne récitait pas des prières. Elle priait et Dieu a dépêché l'apôtre. Ce matin, vous êtes là peut-être parce que vous cherchez vraiment Dieu et que vous en avez marre de la religiosité. Moi, il y a un monsieur qui est venu me voir jeudi. Il me dit, écoutez, monsieur, je veux un entretien avec vous. J'en ai marre d'être un religieux. Eh bien, j'ai dit, c'est bien. C'est ça, la spiritualité. Quelqu'un qui dit, voilà, j'en ai marre de ma religion, j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre d'être ici, de dire alléluia, et de laisser mes gosses regarder des bêtises ou jouer sur ces trucs-là. Un gosse me dit, moi, je tue quelqu'un. Un jour, j'étais faire une visite, je tue, il était là, et je tue. Voilà, je l'ai tué. Je ne sais pas si ça prépare nos enfants à la sensibilité spirituelle, ça. Je crois qu'il doit y avoir des jeux moins violents. Moi, je n'ai rien de ces trucs, je n'ai jamais joué, je ne sais même pas comment ça marche. Mais mes frères et sœurs, vous croyez que c'est sage d'acheter des jeux comme ça à vos enfants? Non, mais sérieusement, Vous croyez que c'est sage? Quand le Fils de l'homme se sera levé, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. La porte, on est le 21 septembre, elle est ouverte. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, 21 septembre 2014, la porte, elle est ouverte. Les ados, soyez sérieux. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, je vous le dis, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Ne faites pas partie de cette catégorie qui s'autorise à croire. Ah, c'est un chrétien. Ah, tu sais, j'ai vu un match de foot. Le gars, là, il rentrait sur le stade, il a fait le signe de croix. Soit d'être un chrétien. Oui, après, quand il y a eu une touche, oui, il a mis un coup de poing à l'autre. Oui, c'est vrai. Et on est là, on croit que... C'est pas parce qu'on fait un signe de croix qu'on est chrétien. Mes frères, franchement... On est chrétien quand on revêt le Seigneur Jésus-Christ et qu'on cherche tout son cœur à lui ressembler. Alors moi, je vous le dis, moi je pense à vous, les jeunes, je pense à vous. À vous, mais à nos enfants, vous êtes nos enfants. On vous aime et on croit que Dieu vous a mis dans nos maisons parce que Dieu veut vous bénir. Ne faites pas comme cet ado un jour qui me dit, moi j'en ai marre, j'aurais préféré naître dans une maison pas chrétienne, j'aurais fait ce que je veux, ma mère elle m'énerve, elle m'amène à l'église. Je dis, si tu savais la grâce que Dieu t'a fait de naître dans un foyer chrétien. Moi j'aurais aimé naître dans un foyer chrétien, je vous le dis, j'aurais vraiment aimé. Alors ne dites pas ça. Ne dites pas, oui, parce que Dieu vous a gardé. Quand vous serez dans l'éternité avec le Seigneur, vous réaliserez la grâce que Dieu vous avait faite de naître dans un foyer chrétien. Même si nous, les parents, n'est pas parfaits, il n'empêche qu'on veut votre bien. Alors, on va se recueillir. Ce sont des moments sérieux. Peut-être que c'est ce moment-là qui fera que vous ne serez pas dehors, mais dedans. Peut-être que c'est ce moment que vous allez vivre maintenant, là, ces quelques minutes, où vous allez dire, oui, Seigneur. Cet après-midi, j'irai aux instructions sur le baptême. Je veux m'engager. Dieu ne vous forcera pas. Et ne sachez bien que dans mon cœur, je ne m'autoriserai pas, après cette prédication, à vous forcer. Parce que Dieu n'approuverait pas cette prédication. C'est vous qui devez vous efforcer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Les jeunes, les enfants, les nouveaux, vous tous qui n'êtes pas convertis, réfléchissez. Voulez-vous faire partie de ceux qui frapperont ? Voulez-vous faire partie de ceux qui seront vraiment aux noces de l'agneau? Je vais demander à Monsieur de Dieu de prendre quelques frères pour la Sainte-Seine. Je vous demande de répondre à Jésus. À moi, ce n'est pas la peine. Moi, il n'y a pas besoin de moi maintenant pour répondre. Vous aviez besoin de ma prédication pour entendre, mais maintenant, c'est vous qui devez dire, comme Lydie, viens dans ma maison. C'est vous qui devez dire à Jésus, Seigneur, viens dans ma maison. Viens dans mon cœur. Nous sommes sous le regard du Seigneur. C'est peut-être le moment le plus important de votre vie. Celui où vous dites, Seigneur, je veux me revêtir de toi. C'est sérieux. Efforce-toi, mon frère. Les jeunes, les ados. Est-ce que j'exagère en disant Jésus va bientôt revenir? Est-ce que c'est de la manipulation? Ou est-ce que c'est le cœur de Dieu, dans son amour, qui vous dit, mais veux-tu connaître la gloire, l'honneur, la félicité, ou les pleurs et les grincements dedans, même si après l'enlèvement, il sera donné l'opportunité aux hommes d'être sauvés, mais il n'y aura plus la grâce. Ça sera dans un martyr pas possible. Alors, je m'adresse aux chrétiens, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, vivez-vous dans la foi. Vivons-nous dans la piété. Vivons-nous dans le mensonge. Vivez-vous dans la légèreté. On aurait pu prendre ces 7 textes. On les prendra, on les reprendra. Parce qu'ils sont tellement sérieux. Alors je m'adresse aux chrétiens. Levez-vous, mes frères et sœurs. Levez-vous avec bonheur. Avec reconnaissance de dire oui, ma foi, allez, c'est une foi d'obéissance. C'est une foi de cœur. C'est pas une foi du dimanche matin. Demain matin, au travail, avec mes collègues inconvertis, il y aura la même obéissance. Je ne vais pas scandaliser le nom de Jésus par un mauvais témoignage au travail. Je ne vais pas vivre dans l'iniquité, je vais vivre dans la sainteté. Alors mes frères, mes sœurs, levez-vous. Et vous qui restez assis, oh, que ce soit une des dernières fois, une des dernières fois, dans 15 jours, 3 semaines, vous pouvez vous lever, prendre le baptême et dire, voilà, je veux m'engager, je veux la porte étroite, je veux le chemin étroit, moi je ne veux pas le chemin large et spacieux de la perdition, je veux un chemin de sainteté. Même s'il est étroit, ça me suffit. Alors les chrétiens, éprouvez-vous vous-même. Sondez votre cœur. Ceux qui ne sont pas encore convertis, faites la même chose. Dites, je veux donner mon cœur à Jésus. Il est la porte. Il se tient à la porte, il frappe. Qui entend sa voix? Est-ce qu'il y a une Lydie ce matin? Est-ce qu'il y a une Lydie parmi nous? Une femme qui dit, oui, j'ai vu, tu m'as guéri, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais maintenant, je veux voir les merveilles de ta loi. Vivons ce moment dans une vérité, dans une honnêteté. Chacun, les enfants, les ados, les nouveaux que nous sommes heureux de vous accueillir, les frères, les sœurs, vivons ce moment dans une profonde honnêteté, une vraie joie. Une vraie joie. Tu l'as dit, Seigneur Jésus, tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit, que si on demeurait en toi, que si ta parole demeurait en nous, ta joie serait parfaite. Tu vois tous les chrétiens qui sont tristes, qui n'ont plus cette joie. Seigneur, ce matin, que ce moment de sainte scène soit ce matin, soit ce moment où on pourra vivre ce qu'on a chanté. Que tu me rafraîchis quand ton onction m'envahit. Notre Père, notre Seigneur, toi qui es resté crucifié sur cette croix pour que l'on ait le pardon, mon Dieu, merci. Merci d'avoir institué la scène. Du fond du cœur, Seigneur, merci pour la scène. Que ce vin nous rappelle toujours que ton sang a coulé. Et que nous aussi, nous devons nous séparer du péché. Que ce pain nous rappelle que ton corps a été brisé pour nos iniquités. Merci Jésus du fond du cœur. Que ton nom soit béni. Amen.